Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le Curé, c'est à vous d'abord que iront mes premières paroles pour vous féliciter et me faire l'interprète de tous ceux qui sont venus ici, sans doute pour la fête Dieu et pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie aujourd'hui, mais aussi par une délicatesse de la Providence, ils peuvent en même temps vous fêter et avec vous, au cours de cette sainte messe, rendre grâce à Dieu pour votre sacerdoce, pour toutes les grâces que vous avez reçues et toutes les grâces que vous avez données. Ce serait à vous, cher Monsieur le Curé, à dire, à exprimer toutes ces grâces que vous avez reçues au cours de votre vie, tout ce passé, depuis votre naissance jusqu'à ce jour, vous êtes beaucoup mieux connu que moi, qu'à moi, et donc vous pourriez le faire beaucoup, avec beaucoup plus de précision que je ne puis le faire, mais cependant, je voudrais brièvement dire ce que le bon Dieu a fait pour vous. Et pour nous, puisque vous nous êtes bien proches et bien attachés, Elegit Deus sacerdotem sibi, Dieu s'est choisi son prêtre. Je crois qu'on peut le dire vraiment d'une manière toute particulière pour vous, cher monsieur le curé. Vraiment, le bon Dieu vous a choisi. Tout nous le prouve, tout nous l'indique. Il vous a choisi en vous faisant naître dans une famille profondément chrétienne. Votre mère, ici présente, vous a donné avec votre père désormais au ciel une vraie formation catholique. Une formation chrétienne profonde, dans un cadre de montagne qui exprime aussi d'une manière particulière la grandeur du bon Dieu, la beauté de Dieu, qui vous a donné l'occasion d'être formé d'une manière rude aux vraies vertus chrétiennes dans ces pays au climat difficile. Que de souvenirs tout cela doit vous rappeler. Et puis, le bon Dieu vous a choisi pour être son prêtre. Il y a donc 25 ans que vous avez reçu l'onction sacerdotale et que vous êtes prêtre du diocèse de Sion. Cette année du sacerdoce en 61 était l'année de la veille du concile, préparateur de bouleversements, de grands changements dans notre Sainte Église. Et par une grâce particulière du bon Dieu, vous avez su garder le sens de la foi, le sens de ce qui vous a été donné au séminaire. Et encore jeune vicaire, puis jeune curé, à l'occasion des réunions sacerdotales, vous n'aviez pas hésité à manifester votre réprobation des changements que vous voyiez venir et qui vous semblaient à juste titre contraires au bien de l'Église, contraires au bien des âmes. Alors vous l'avez dit sans embâche. Et pour manifester votre attachement à l'Église de toujours, vous avez aussi gardé votre soutane, votre habit ecclésiastique, persuadé que c'était là une manifestation de votre attachement à la foi et au sacerdoce. Et puis, la Providence a voulu que votre évêque vous nomme aride, sachant parfaitement que c'était un ministère particulièrement difficile. Vide n'était pas réputé par sa ferveur chrétienne. Et c'est par conséquent dans un milieu où il y avait beaucoup à faire et où votre zèle aurait pu s'exercer que votre évêque vous a envoyé. Et non seulement pour évangéliser, mais aussi pour construire une église neuve, de même que vous aviez en définitive à construire l'église spirituelle, vous aviez également à construire l'église matérielle, et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez fait les deux, cher monsieur le curé. Vous avez rendu aride sa foi d'antan. Vous avez rendu aride une église, l'église neuve. Mais voici que, étant aride, vous étiez à la fois le curé d'Écône. Et encore par une grâce particulière de la Sainte Providence, Écône est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui, le séminaire d'Écône. Avec l'autorisation d'ailleurs de l'évêque de Sion. Et par conséquent, il n'y avait absolument aucune difficulté, au contraire, à ce que le séminaire soit très uni à la paroisse de Ride, qui était notre paroisse, et nous avons trouvé précisément le curé que le bon Dieu nous avait préparé. Ferme dans la foi, attaché à la tradition, prêt à lutter s'il le fallait pour garder sa foi, pour garder son sacerdoce d'une manière intégrale. Alors désormais, Écône et M. le curé de Ride ont connu des liens qui sont restés dans une fidélité admirable. Et c'est là qu'un choix, cher monsieur le curé, a dû être fait par vous, malgré la douleur de rompre apparemment avec le diocèse. Vous avez préféré garder la tradition, garder la foi, plutôt que de voir le désastre s'introduire dans votre église, dans votre paroisse, comme dans les autres paroisses, de voir les paroisses désertées, comme le séminaire de Sion, qui a fermé ses portes pour partir, pour envoyer les quelques sujets qui restaient à Fribourg. Vous avez préféré continuer votre ministère sacerdotal tel que vous l'aviez reçu des mains de votre évêque, et tel qu'on vous l'avait enseigné au séminaire. Vous n'avez pas voulu changer et vous êtes resté le prêtre, le curé catholique de toujours. De cela, nous vous félicitons de grand cœur. Malgré les épreuves que vous avez dû subir, vous êtes resté fidèle. Et voici que désormais 25 ans de sacerdoce ont passé. Et grâce à vous, cher monsieur le curé, le Valais reste encore catholique. Je crois que nous pouvons le dire et nous devons le dire. Sans doute vous le direz, mais l'icône est devenue aussi le symbole de la catholicité, le symbole de la fidélité à l'Église de toujours. Mais ce n'est pas l'icône qui a maintenu la foi dans ce cher valet. C'est vous, cher monsieur le curé, c'est par votre intermédiaire. Si vous n'aviez pas été là, nous n'aurions pas connu cette affluence des Valaisans. Nous n'aurions pas connu ce maintien de la foi catholique dans les cœurs valaisans. Aussi, je pense que les personnes ici présentes, qui sont d'ailleurs un petit nombre parmi celles que représentent tous les centres catholiques du Valais, vous remercient infiniment de les avoir aidés à garder la foi, d'avoir été le prêtre catholique qui maintient l'éducation chrétienne des enfants, qui maintient la sanctification des familles, qui maintient le saint sacrifice de la messe de toujours. Quelle grâce pour les fidèles du Valais. Et si nous pouvons dire que l'icône est entourée également de ses chers fidèles, eh bien nous vous le devons, cher monsieur le curé. Et si cette fidélité à l'icône, malgré les épreuves que nous avons subies nous aussi au cours de ces 15 dernières années, s'est toujours manifestée d'une manière permanente, sans faille, c'est bien à vous que nous le devons aussi, parce que au milieu de ces épreuves, vous avez toujours été présent, et jamais vous n'avez changé, et jamais vous n'avez hésité. Vous êtes resté comme un roc, fidèle à l'icône, et fidèle à la foi, fidèle à l'Église. C'est cela que nous voulons être, c'est cela que nous devons être. Alors de tout cela, nous remercions le bon Dieu, et nous vous remercions, cher monsieur le curé, vous souhaitant, à l'occasion de ces 25 années de sacerdoce, de longues années encore de ministère, pour continuer à maintenir et à développer la vraie foi, la foi catholique, dans ce pays qui a été la source de tant et de tant de vocations. De vocation dans le diocèse et vocation en dehors du diocèse. Tant de missionnaires, tant de religieux, de religieuses sont sortis de ces familles valaisannes. Quelle est la famille qui ne comptait pas parmi ses membres ou ses proches des religieux, des religieuses, des prêtres? Alors par votre action, par votre zèle, vous refaites et vous maintenez ce qui peut être encore maintenu des familles chrétiennes. Et de là viennent aussi les vocations. Cette année, nous allons avoir la joie d'ordonner 5 prêtres, nouveaux prêtres suisses. C'est là vraiment une grande grâce. Et c'est bien à votre exemple et à votre prière que nous devons ces vocations, cher monsieur le curé. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu continue à vous donner une forte santé et vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin pour continuer votre magnifique apostolat pour la gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Eh bien, chers frères, je ne voudrais pas prolonger trop longtemps cette prédication puisque nous avons une cérémonie assez longue aujourd'hui avec la procession du Saint-Sacrement qui va suivre cette cérémonie, mais remercions le bon Dieu. Eh bien, chers frères, que cette fête du sacerdoce ait lieu précisément le jour de la fête Dieu, jour de l'Eucharistie, jour de la messe, en définitive, puisque l'Eucharistie, c'est le fruit merveilleux, miraculeux de la Sainte Messe, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc aussi la fête du sacerdoce et la fête de l'Eucharistie. Remercions le bon Dieu et comprenons et gardons cette conviction que sans le sacerdoce, il n'y a plus de vie chrétienne. Sans le sacerdoce, il n'y a plus de famille chrétienne. Sans le sacerdoce, il n'y a pas de cité chrétienne. Tout est attaché au prêtre. Le bon Dieu l'a voulu ainsi. Notre Seigneur l'a voulu. Faites ceci en mémoire de moi. Il l'a dit à ses prêtres. Faites ceci en mémoire de moi. C'est à eux qu'il a confié le sacrifice de la messe. C'est à eux qu'il a confié l'Eucharistie. C'est à eux qu'il a confié l'enseignement de la doctrine chrétienne, qu'il a confié la sanctification des âmes et la conduite des âmes. Voilà le prêtre. Quel don extraordinaire! Un saint prêtre, c'est un don merveilleux. Je suis bien sûr que vous priez, mes bien chers frères, de tout votre cœur, de toute votre âme, pour que le bon Dieu multiplie les saints prêtres. Les saints prêtres à l'image du cher monsieur le curé de Rive, tout entier dévoué, zélé, pour le bien des âmes, pour le bien des familles, pour le bien de la cité. Le prêtre est à l'origine de toute la civilisation chrétienne. Avec le saint sacrifice de la messe, par le saint sacrifice de la messe, par notre Seigneur Jésus-Christ, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter tout à l'heure les louanges à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas faire mieux. Que Jésus règne sur nous, qu'il règne en nous, dans nos âmes, qu'il règne dans nos familles, qu'il règne dans nos villages, qu'il règne dans notre vallée, que ce vallée redevienne un vallée catholique, honorant notre Seigneur Jésus-Christ, respectant les lois de notre Seigneur Jésus-Christ, ne mettant rien au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Benoît a donné comme devise à ses moines « Christo omnino nihil preponant » que les moines ne placent rien au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le premier servi, premier honoré, premier aimé. Et bien que ce soit là aussi aujourd'hui, à l'occasion et de la fête du sacerdoce de M. le curé et de la fête de l'Eucharistie, notre devise, ne rien mettre au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus règne en nous, dans nos foyers, dans nos cités, par l'intermédiaire et l'intercession de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, chers enfants, nous célébrons aujourd'hui dans la joie la fête du très saint sacrement, la fête Dieu. C'est-à-dire la fête de Dieu. C'est la veille de sa mort que notre Seigneur, ayant aimé les siens, les a aimés jusqu'à la fin. Le Saint-Évangile nous dit que notre Seigneur avait un grand désir de célébrer cette Pâque avec ses apôtres, car au moment où il allait les quitter pour monter à l'autel de la croix, sa charité, sa miséricorde voulait conforter les apôtres par l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Et c'est ainsi que, prenant du pain dans ses mains, il dit aux apôtres, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et prenant du vin, il leur dit, « Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Et notre Seigneur ajoutait aussi, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Voilà ce mystère admirable de la miséricorde, de la charité divine et ses privilèges. Cette obligation si douce pour nous de recevoir notre Seigneur pour obtenir la vie éternelle. On pourrait dire que dans la communion, c'est la consommation de notre union avec Dieu. Et c'est donc l'acte le plus parfait, le plus élevé de la vertu des religions. Cette vertu qui rattache la terre au ciel, qui rattache la créature au Créateur. Eh bien, c'est dans la communion qui se trouve la consommation de cette union. Le Verbe de Dieu a voulu s'incarner et il a voulu donner sa vie pour nous. Et ensuite, il a voulu se donner en nourriture. Voyez donc quel est, pour ainsi dire, le parcours du Verbe de Dieu. Du ciel à l'étable, de l'étable à la croix, de la croix à nos tabernacles, de nos tabernacles à nos âmes, et de nos âmes au ciel, car il nous élève au ciel. Et c'est pourquoi l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. La consommation de l'unité avec notre Seigneur et aussi la consommation de l'unité entre nous. Et c'est pourquoi notre Seigneur a choisi comme matière de ce sacrement l'hostie, le vin, qui sont faits d'une multiplicité des grains, soit des raisins, soit des blés. C'est la multiplicité qui est consommée dans l'unité. Et c'est cela qui s'est produit dans nos âmes et dans les corps mystiques, c'est-à-dire dans l'Église catholique, qui trouve son unité, bien sûr, dans la foi, dans la charité, mais cette unité se consomme par la participation à la même Eucharistie. Et par là, nous voyons combien égarés sont ceux qui prétendent chercher l'unité ailleurs, du vrai saint sacrifice de la messe. Du sacrifice Eucharistie. loin de la foi, loin de la vraie charité, loin aussi de ces principes d'unité de l'Église catholique qui est le sacrifice eucharistique. Et c'est pourquoi cette fête, cette célébration nous sépare, nous éloigne des novateurs, de ceux qui ont introduit les réformes dans l'Église. Car c'est tout à notre esprit. Nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est célébrer cette fête dans l'esprit de toujours, avec les mêmes dispositions de nos parents, nos ancêtres, tous ceux qui nous sont précédés dans la foi. Nous célébrons cette fête telle qu'elle nous a été donnée par saint Thomas d'Aquin, le grand théologien de l'Église catholique, qui n'a fait que traduire dans la liturgie la foi des pères de l'Église, la foi des apôtres, leur enseignement. Nous ne faisons que continuer la foi de toujours et nous la pratiquons. Mais aujourd'hui, toute la réforme liturgique va dans le sens de la destruction du sacrifice, de la négation de la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, et donc de la négation de sa divinité, son sacerdoce, sa royauté. C'est tout cela que nous allons fêter dans quelques instants, dans la procession. Or, il ne faut pas se tromper, cela répond à une foi différente, à une conception différente. C'est tout à notre esprit qui n'est pas l'esprit vraiment catholique. C'est le subjectivisme, c'est l'humanisme. Et cela trouve sa réalisation dans la nouvelle liturgie, dans la nouvelle messe. Car le culte, la liturgie n'est que l'expression de notre foi. Et cela trouve donc son expression, particulièrement dans le Saint-Sacrifice, dans la messe, donc dans la réforme de la messe catholique. Nous pouvons considérer deux aspects différents dans les sacrifices eucharistiques. En tant que sacrifice, en tant que renouvellement du sacrifice de la croix, et en tant que sacrement, ce sont deux aspects de la même réalité. Je pense qu'ils sont bien sûr liés intimement, on pourrait dire qu'en soi, ils sont inséparables. Mais cependant, nous pouvons considérer tantôt l'un, tantôt l'autre de ces aspects. Et c'est pourquoi l'Église a institué de fait, car le jeudi saint nous fêtons aussi le sacrifice eucharistique, mais on met plutôt en évidence l'aspect du sacrifice, car c'est la veille du vendredi saint. Et aujourd'hui, dans cette fête, on met surtout en évidence le sacrifice eucharistique en tant que sacrement, en tant que notre Seigneur se nous donne en nourriture de l'âme. Or, la réforme liturgique a attaqué le sacrifice eucharistique dans les deux aspects, à la place du sacrifice, c'est le repas. Agape. À la place du sacrement, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, eh bien c'est l'homme. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Et c'est tout cela, nous le voyons dans la nouvelle liturgie. Il n'y a plus d'autel, c'est la table. Les tabernacles ont été écartés, cachés. On a supprimé tous les gestes des vénérations, des respects dans la célébration de la messe. Voyez par exemple, un tout petit exemple. Autrefois, après la consécration, le prêtre devait garder l'index et le pouce unis, car il y avait des toutes petites parcelles. Et là se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cela a été éliminé. Et puis, ce qui est pire, par le moyen de ces changements, ils arrivent à changer la foi des prêtres et donc l'intention. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de consacrer et de faire la transsubstantiation? Est-ce qu'ils croient vraiment dans la présence réelle, objective, substantielle de notre Seigneur? Et alors, on permet que des laïcs donnent la communion, et on donne la communion à la main. Il n'y a pas longtemps, cela a été approuvé en Italie. Donc, vous voyez, la révolution continue et détruit notre foi, nos sacrements. À Saint-Pierre même, on donne la communion à la main. Plus de respect. Et ils arrivent même à changer l'essence même, la notion même des transsubstantiations. Et alors on nous parle des transsignifications. C'est-à-dire, c'est mon idée, c'est ma foi, une foi qui naît dans le tréfonds de la conscience, qui arrive à produire une présence spirituelle de Dieu dans l'Eucharistie. Voyez, c'est donc l'idée de l'homme qui est finalement la cause de Dieu. C'est l'homme, c'est sa conscience qui façonne l'idée de Dieu. Donc finalement, c'est l'homme qui s'adore dans l'hostie. Voyez combien profond cette crise de la foi, combien profonde. Eh bien, l'apôtre Saint Paul, il nous avertissait déjà il y a longtemps sur tous ces dangers. Il disait aux Thessaloniciens, faites attention à tous ceux qui viendront vous raconter des fables et qui font des généalogies interminables. Nous pourrions dire qu'ils font de la philologie interminable. Et c'est alors que l'apôtre dit aux catholiques, state, demeurez ferme, et tenete traditiones, et gardez les traditions que vous avez reçues, soit par ma parole, soit par mes épîtres. Donc l'apôtre Saint Paul distingue déjà, fait la distinction claire entre la révélation qui nous vient par la tradition orale, la tradition de l'Église non écrite, et la tradition qui nous vient, la révélation qui nous vient par l'Écriture sainte. Il faut s'attacher à cela, il faut garder cela. Et c'est pourquoi nous allons faire tout à l'heure cette procession avec la même disposition qui qu'il y avait les apôtres, la foule, les enfants, les jours de l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem. Et voyez dans cet exemple la partie très importante des enfants, justement. Ce sont eux qui ont commencé à proclamer la divinité de notre Seigneur. Hosanna au fils de David. Donc les enfants appelaient notre Seigneur le Messie, Dieu. Et les pharisiens, ils ont bien compris. Et alors ils ont dit à notre Seigneur, mais voyez ce qu'ils disent. Dites-leur de se taire. Et notre Seigneur cite l'Ancien Testament. C'est de la bouche des enfants et des nourrissons que vous avez fait une louange parfaite. Et je vous l'ai dit, si eux, ils se taisent, eh bien, ce sont les pierres qui chanteraient. Notre Seigneur, dans l'Évangile, nous dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Et c'est la même chose qu'il répète aujourd'hui depuis l'hostie. Laissez les enfants venir à moi. Et pourquoi cette prédilection de notre Seigneur pour les enfants? Je pense que c'est une considération très utile. D'abord pour vous, chers enfants. Mais aussi pour les parents. Car notre Seigneur aime certaines dispositions, certaines qualités qui se trouvent naturellement dans l'enfant. Donc les enfants, ils devront protéger, garder ces dons, ces qualités, et même les élever, les surnaturaliser, les appliquant à notre Seigneur, à Dieu lui-même, à l'Eucharistie. Et nous, les adultes, nous devons imiter ces qualités. Bien souvent, nous perdons les qualités de l'enfance et nous gardons les défauts. C'est l'inverse que l'Écriture sainte, par la bouche de saint Paul, nous demande. Quelles sont donc ces qualités, ces dispositions que Dieu lui-même nous propose, qu'il aime bien? Eh bien, c'est tout d'abord l'innocence. L'innocence de la vie. L'humilité. La simplicité. La joie. L'innocence qui est faite de pureté. L'enfant, normalement, fuit d'instinct ce qui est mauvais, ce qui est impur. Il a un cœur pur. Il cherche la modestie. L'enfant aussi a facilement la foi. Et la bonne foi, il croit donc très facilement, surtout à l'autorité. Il est très confiant. Il confie en ceux qu'il aime. Il n'est pas méfiant. Il est sincère. Il aime bien la véracité. Et même parfois, quand il essaie de cacher la vérité, il l'a dit. Car c'est le naturel en lui dire la vérité. L'enfant est humble. Il accepte l'aide. Il n'est pas vaniteux. Il est simple. Il n'est pas susceptible, compliqué. Rechercher. Et il est toujours dans la joie. Voilà les dispositions qu'il nous faudrait à tous par rapport à Dieu. Et ces qualités, mes chers enfants, doivent se développer surtout par votre piété eucharistique, éventuellement votre appartenance à la croisade eucharistique, qui vous permet d'honorer Dieu et de vous sanctifier dans ses dispositions. Et c'est tout un programme de vie qui est la devise de la croisade eucharistique, communie, sacrifie-toi, prie, sois apôtre. Il me semble tout à fait providentiel la coïncidence de cette devise de la croisade eucharistique lancée par le pape Saint-Pie-X et ce qui est venu nous demander la très sainte Vierge Marie à Fatima, car c'est justement ça l'essence, le noyau du message de Fatima. Faire des prières, surtout le chapelet, faire des sacrifices, faire la communion réparatrice, devenir des apôtres de la vérité de notre Seigneur, du cœur de Marie. Il y a donc une coïncidence extraordinaire. Demandons en conséquence à la très sainte Vierge Marie, en ces jours, de nous donner une vraie piété eucharistique, de nous donner des dispositions, des joies dans cette journée, surtout à la procession du Saint-Sacrement, des dispositions de foi, et même, je dirais, être fier de notre foi et de pouvoir la proclamer, la professer, la manifester. Et demandons surtout au cœur de Marie de nous donner les dispositions d'âme pour bien recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, afin que la réception de l'Eucharistie produise en nous la consommation de l'unité, et donc que les catholiques fidèles, appelés traditionnalistes, nous soyons vraiment des exemples, pas seulement pour la foi, pour la charité, mais aussi par notre piété eucharistique. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.